Vous écoutez, on lit pour vous.
L'identité québécoise n'est pas en voie d'extinction. Un texte de Noémie Mercier, paru le 21 mai 2024 dans la presse. Il s'est produit quelque chose de curieux entre les deux derniers recensements de la population canadienne. Le nombre de personnes qui s'identifient comme québécoises d'origine a quintuplé. Pardon? L'identité québécoise, dont l'extinction redoutée justifie de plus en plus de politiques, alimente de plus en plus de discours, loin de battre en retraite, aurait fait un bond de géant en 5 ans? J'ai trébuché par hasard sur cette donnée, enfouie dans une publication sur la diversité ethno-culturelle au pays. En cherchant à comprendre de quoi il retourne, j'ai plongé dans une quête statistico-existentielle qui m'a amené à repenser la notion même d'identité, celle qui occupe une place grandissante dans le débat public et celle, plus intime, avec laquelle je jongle dans mon fort intérieur. La manière dont on se raconte, d'où l'on vient, et les épithètes qu'on choisit pour affirmer qui l'on est, sont éminemment personnelles. Elles sont aussi malléables. Elles évoluent continuellement selon le milieu dans lequel on baigne, le climat sociopolitique et même la façon dont la question nous est posée. Permettez-moi un détour par la petite histoire de l'identité canadienne, fort instructive à cet égard. Longtemps, la part de la population qui revendiquait des origines canadiennes était si infime que Statistique Canada ne la comptabilisait même pas. La majorité des citoyens continuaient de se référer à leurs racines européennes, même si elles remontaient à la colonisation. Le vent a tourné au début des années 1990. D'un maigre 0,5% lors du recensement de 1986, la proportion de Canadiens d'origine a grimpé à 31% en 1996, puis à plus de 40% en 2001, avant de redescendre autour d'un tiers lors des cycles suivants. Contexte et détails techniques. Deux facteurs ont pu éveiller cet élan identitaire, selon les spécialistes qui l'ont décortiqué. D'abord, le contexte sociopolitique. Devant la perspective d'une société de plus en plus métissée et vu la montée du mouvement souverainiste consécutive à l'échec de l'accord du lac Meech, davantage de Canadiens ont voulu manifester leur adhésion à une nation commune. Un quotidien de droite a même organisé en 1991 une campagne intitulée « Count Me Canadian » pour inciter les gens à se déclarer Canadiens dans le recensement. Puis, une subtilité méthodologique a aussi changé le cours des choses. À partir de 1996, le mot « canadien » est apparu dans la liste d'origine citée en exemple dans le formulaire. Les conditions étaient réunies pour qu'un plus grand nombre se reconnaisse dans cette étiquette et l'adopte pour se définir. Il y a peut-être de ça aussi derrière la soudaine multiplication du nombre de Québécois d'origine, un contexte nouvellement favorable à l'expression de « la fierté québécoise », jumelée à un détail technique. En 2021, Statistique Canada a remplacé les exemples qui étaient inclus directement dans le questionnaire. On jugeait qu'ils orientaient les réponses par un hyperlien donnant accès à une liste de 500 origines possibles. Parmi celles-ci figurait le mot « québécois », qui n'avait jamais auparavant été proposé comme exemple. Tout à coup, presque 1 million de personnes se sont saisies de cette appellation. 5 ans plus tôt, elles étaient moins de 200 000. Et c'est ainsi que Québécois s'est hissé au 3e rang des origines les plus souvent citées au Québec, derrière Canadiens et Français. En 2016, elle n'était que la 8e. Pour moi, s'il y a une conclusion à tirer de ces données changeantes, c'est que notre conception de l'identité est bien étroite, bien rigide. J'aime croire que l'identité n'est ni un fossile ni un carcan. Elle est poreuse et souple, sensible aux circonstances, ouverte aux quatre vents. Ethnicité. Je n'étais pas au bout de mes surprises dans ma quête statistico-identitaire. Si certains repensent leurs origines, d'autres se ravisent à propos de leur ethnicité, c'est-à-dire le fait d'appartenir à la majorité blanche ou à une minorité visible. Il y a quelques années, deux chercheuses ont entrepris de comparer les réponses qu'ont fournies 1 million d'adultes dans deux recensements successifs en 2006 et 2011. En l'espace de 5 ans, presque un Canadien sur 10 avait changé de groupe ethnique. Les personnes mixtes étaient les plus susceptibles de changer d'avis. Souvent, après avoir coché 2 cases en 2006, elles n'en retenaient qu'une des deux en 2011 ou vice-versa. Par exemple, 57% des gens qui se sont déclarés blancs et noirs une année ont offert une réponse différente l'autre année. 80% de ceux qui se sont dit blancs et latinos et 81% de ceux qui se sont dit blancs et arabes ont aussi modifié leur réponse entre les deux recensements. Leur choix dépendait notamment de leur lieu de résidence. Les gens avaient tendance à épouser l'ethnicité de leurs voisins. Ainsi, quelqu'un né d'un père blanc et d'une mère noire sera plus porté à se décrire comme noir s'il vit dans un secteur où d'autres ont cette couleur de peau. L'identité n'existe pas en vase clos. On a parfois besoin du miroir des autres pour la reconnaître en soi. On fait tous l'expérience de ces fluctuations lorsqu'on voyage. On peut se sentir plus montréalais que jamais à Baie-Comeau, résolument québécois à Toronto et foncièrement canadien au Texas. Chez les gens qui vivent à cheval entre plusieurs cultures, ces va-et-vient peuvent même être quotidiens. Une professeure de l'UQAM, spécialisée en psychologie interculturelle, Marina Doucerin, a demandé à une centaine de personnes issues de l'immigration de consigner dans un journal de bord les allégeances culturelles qui les habitaient à divers moments de la journée. Les volontaires se sont attribués en moyenne 5 identités distinctes, comme montréalais, asiatique ou sino-canadien, et ils alternaient de l'une à l'autre en fonction de leur interlocuteur, du lieu où ils se trouvaient ou de ce qu'ils étaient en train de faire. Pour Marina Doucerin et d'autres spécialistes de cette école de pensée, il n'y a rien à déplorer ici. Ces allers-retours ne sont pas forcément le signe d'une intégration inachevée ou d'une ambivalence à corriger. À leurs yeux, et j'avoue que cette idée m'est d'un grand réconfort. C'est plutôt le reflet de la nature même de l'identité. Une valse perpétuelle entre différentes partitions qui se chevauchent et s'entrecoupent, se recomposent, sans pour autant s'effacer. Comment on mesure l'identité? Statistique Canada s'y prend indirectement pour mesurer l'identité. Le recensement ne nous demande pas de dire à quelle culture on a le sentiment d'appartenir ou à quelle communauté on est le plus attaché, par exemple. On nous invite plutôt à nommer les origines ethniques ou culturelles de nos ancêtres. Cette question, en apparence simple, laisse à chacun énormément de latitude pour décrire son héritage culturel. Les origines peuvent faire référence à des pays, des régions, des nations autochtones ou des religions, et on peut fournir jusqu'à 6 réponses. Est-ce qu'un Québécois francophone, descendant des premiers colons de la Nouvelle-France, né en Gaspésie de parents acadiens, disons, inscrira de préférence Canadien, Français, Canadien-Français, Québécois, Gaspésien ou Acadien? Toutes ces réponses sont valables, seules ou en combinaison, générant des centaines de configurations possibles. Une autre question porte sur l'ethnicité. On peut cocher autant de désignations qu'on juge applicables parmi les 11 suivantes. Blanc, sud-asiatique, chinois, noir, philippin, arabe, latino-américain, asiatique du sud-est, asiatique occidental, coréen ou japonais. On peut aussi choisir autre groupe et préciser duquel il s'agit. Les autochtones sont exclus de cette catégorisation et n'ont pas à répondre à la question. C'était « L'identité québécoise n'est pas en voie d'extinction », un texte de Noémie Mercier paru le 21 mai 2024 dans La Presse.
Combattre l'insécurité, de Toronto à Montréal, un texte de Maxime Bergeron, paru le 11 avril 2024 dans La Presse. Début 2023, je m'étais rendue à Toronto pour constater la flambée de violence dans les transports en commun. C'était lourd et laid. Attaques à la machette ou à la seringue, immolations, tirs de carabine, passagers poussés sur les rails, meurtres. Cette série de crimes gratuits avait créé un vent de panique tout à fait compréhensible chez les usagers. Personne n'a encore été assassiné dans le métro de Montréal, et c'est tant mieux. Mais le sentiment d'insécurité augmente après une série d'agressions récentes. De plus en plus de gens hésitent maintenant à utiliser le réseau. Certains ont déjà abdiqué. La Société de transport de Montréal, STM, redoute de voir son achalandage péricliter si la tendance se maintient. Une crainte légitime, si je me fie à la tonne de courriels que j'ai reçus après une récente incursion dans le quotidien glauque du métro. Toronto a mis en place une stratégie musclée pour renverser la tendance dont Montréal s'inspire aujourd'hui. L'élément central du plan d'action torontois pourrait se résumer ainsi « visibilité, visibilité et visibilité ». Après la multiplication des actes de violence en 2022 et au début de 2023, la Toronto Transit Commission, TTC, a embauché des dizaines de constables spéciaux pour patrouiller dans son métro. Elle a aussi recruté une foule d'agents de service à la clientèle, bien en vue dans les stations avec leurs dossards fluo. Un service de messagerie texte a également été mis en place pour permettre aux usagers de dénoncer discrètement, en temps réel, toute situation inquiétante. L'objectif de toutes ces mesures est clair : faire sentir aux usagers et aux agresseurs potentiels une présence constante sur le terrain. Rappelez à tous que les stations de métro et les terminus d'autobus ne sont pas des zones de non-droit. La partie est loin d'être gagnée, m'a indiqué Stuart Green, porte-parole de la TTC. Mais les statistiques parlent d'elles-mêmes, la tendance est à la baisse. Le taux d'agression envers les employés du réseau a reculé de 40 % entre janvier 2023 et janvier 2024, tandis qu'il a fléchi de 22 % envers les usagers. Le sentiment de satisfaction des usagers par rapport à la sécurité dans le réseau a grimpé de 7 points pendant la même période. Les deux tiers des passagers de la TTC se sentent véritablement à l'aise, ce qui laisse quand même une bonne quantité de gens inquiets. Montréal ne reste pas les bras croisés devant la crise actuelle. La STM compte environ 160 constables spéciaux munis de bâtons télescopiques et de gaz poivre. Une quarantaine d'autres seront formés d'ici l'hiver prochain. Ils patrouillent dans les 68 stations du métro et répondent à 185 incidents par jour en moyenne, nettement plus que l'an dernier. le transporteur leur a adjoint les services d'une quinzaine d'ambassadeurs de sûreté au cours des derniers mois. Le service de police de la ville de Montréal, SPVM, a, de son côté, affecté une centaine d'agents exclusivement à la résolution des crimes commis dans le réseau. C'est beaucoup de ressources, mais ce n'est pas assez pour apaiser les craintes des usagers. Comme le veut l'adage, les gens ne souhaitent pas le savoir, mais bien le voir. Ou plutôt, les voir. C'est dans cette optique que la STM a pondu à toute vitesse un plan baptisé « Réassurance », annoncé le mercredi 10 avril 2024. Il viendra augmenter temporairement la présence de son personnel dans les 10 stations de métro les plus problématiques. Des équipes de 4 employés patrouilleront du matin jusqu'au soir dans une grappe de 3 stations et ils pourront intervenir rapidement si un incident survient. C'est un bon début, mais ce plan n'assurera pas une présence en continu dans chacune des stations les plus chaudes, ce que de nombreux usagers auraient souhaité. La STM réévaluera ce plan après un mois, lorsqu'une partie des sans-abri qui errent dans le métro déménageront leurs pénates vers des parcs et d'autres lieux extérieurs. Car la crise observée à Toronto, à New York et à Montréal est d'abord une crise de santé publique. La pandémie est venue décupler des problèmes qui existaient déjà depuis longtemps, le manque de ressources en itinérance, en toxicomanie et en santé mentale. Une bonne part des incivilités observées dans le métro sont causées par des gens qui souffrent de ces maux, mais n'ont nulle part d'autre où aller. Les réseaux de transport en commun deviennent leur refuge par défaut. D'ailleurs, la STM n'entend pas chasser les sans-abri du métro, n'en déplaise à certains usagers. Une politique de tolérance continuera d'être pratiquée, comme à Toronto. La situation reste chaotique à bien des égards. En me rendant à la conférence de presse de la STM, j'ai assisté à la station Berry-UQAM à l'interpellation d'un sans-abri très agité qui hurlait des insanités racistes à un groupe de 6 constables spéciaux. Doux matin. Plus tard, le même jour, au moment même où j'écrivais ces lignes, un lecteur m'a informé d'une violente bataille en sang qui se déroulait devant ses yeux à la station Atwater. Ce n'est pas compliqué. Pour que la situation se résorbe, vraiment, il faudrait un réinvestissement massif des 3 ordres de gouvernement dans le logement social, dans l'accompagnement en santé mentale et dans les ressources en toxicomanie. Ne retenez pas trop votre souffle, cela n'arrivera pas demain ni après-demain. Il ne faudra pas attendre de miracle du nouveau plan de sécurité de la STM que l'opposition à l'hôtel de ville a critiqué dès son annonce. Mais il y a quand même de minces lueurs d'espoir. J'ai discuté avec Jocelyn Latulippe, directeur sûreté et sécurité incendie à la STM. En plus de la 40aine de constables supplémentaires attendus d'ici l'hiver prochain, le transporteur compte aussi revoir son système de surveillance électronique, m'a-t-il dit. Les 2000 caméras sont en train d'être remplacées. De nouvelles technologies sont envisagées pour détecter à distance les situations dangereuses, en utilisant notamment l'intelligence artificielle. Un service de messagerie texte d'urgence, semblable à celui de Toronto, est aussi à l'étude. La STM fait bien de considérer tous ces outils qui pourraient permettre de pallier l'insuffisance de ses effectifs sur le terrain. Les usagers ont besoin de réassurance et ça presse. C'était « Combattre l'insécurité de Toronto à Montréal », un texte de Maxime Bergeron, paru le 11 avril 2024 dans la presse.
Accélérer le virage vert sur les plateaux de tournage. Un texte de Jean Siag, paru le 27 mars 2024 dans La Presse. Ce sont 18 maisons de production qui seront accompagnées dans leur processus de transition écologique cette année, a annoncé le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, BCTQ, mardi, en marge du premier rendez-vous annuel du programme « On tourne vers ». Cette mesure, financée pour la deuxième année de suite par la Société de développement des entreprises culturelles, SODEC, qui a injecté 150 000 $ dans ce plan de formation de 9 mois, vise à accélérer la mise en place des mesures éco-responsables prévues dans le cadre de la certification. On tourne vers qui possède son livre vert et son guide des bonnes pratiques. Avec les 15 producteurs qui ont été formés l'an dernier, ce sont donc 33 producteurs qui seront rompus à des façons de faire qui sont éco-responsables. S'est réjouie la présidente directrice générale du BCTQ, Christine Maestracci. En plus, ces producteurs reçoivent à la fin de leur formation une bourse pour leur prochaine production. Lancée il y a 3 ans, à la faveur d'une initiative tripartite menée par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, BCTQ, le Conseil québécois des événements éco-responsables et le Groupe Québécois, le programme « On tourne vers » est à l'origine de la certification de près de 90 productions. Environ 150 producteurs, diffuseurs, cinéastes, animateurs, étudiants et autres membres de l'industrie audiovisuelle du Québec ont donc participé mardi à une journée de réflexion et de discussion visant à réduire au maximum l'empreinte carbone des plateaux de tournage. La certification, dont tourne vers, s'étendra également aux studios d'effets visuels et d'animation, nous confirme Christine Maestracci. Il faut réfléchir à des manières de réduire l'empreinte de ces studios, notamment en repensant à l'équipement numérique qui est utilisé, comme les serveurs, qui sont très énergivores. Christine Maestracci le répète régulièrement. L'industrie audiovisuelle est beaucoup plus polluante qu'on pourrait le croire. Un long métrage est l'équivalent de 10 000 allers-retours Montréal-Toronto en avion, se plaît-elle à dire, pour illustrer l'empreinte carbone d'un plateau de tournage. Réfléchir à des solutions de remplacement. Plusieurs diffuseurs étaient présents pour ce premier rendez-vous que Christine Maestracci souhaite répéter annuellement. Parmi eux, Radio-Canada a témoigné des initiatives qu'elle a mises en place. Au cours de la dernière année, nous avons certifié 4 productions à l'interne, dont Découverte, Carbone et L'épicerie, nous confirme Emmanuelle Lamarre-Cliche, directrice générale Opérations, Transformation et Développement durable. À l'externe, ce sont 11 productions qui ont été certifiées, la dernière en date étant l'émission Zénith. Dans un rapport préparé par Radio-Canada, qui fait un bilan carbone de ces productions, les activités les plus polluantes ont été calculées, nous dit Emmanuel Lamarre-Cliche. Il s'agit du transport terrestre, maritime ou aérien, des matériaux, les décors, les batteries, les aliments et de l'énergie consommée, notamment par des génératrices, éclairage, tournage mobile, cantine, etc. On est en voie de remplacer toutes les batteries alcalines des preneurs de son par des batteries rechargeables, donne en exemple Emmanuel Lamarre-Cliche. Il faut réfléchir à des alternatives. Les génératrices au diesel sont vraiment très énergivores et très polluantes. S'il y a des poteaux et qu'on tourne durant une longue période, on pourrait s'entendre avec Hydro-Québec. Le directeur des contenus chez TV5, Jérôme Helio, a lui aussi souligné l'importance des équipements utilisés sur les plateaux de tournage, évoquant les génératrices électriques ou encore celles alimentées par l'énergie solaire, tout comme son collègue Gilles Couturier de Québecor, qui a parlé de la certification récente du tricheur et de révolution. Jérôme Helio nous a notamment parlé de la série documentaire « Climat d'urgence », qui sera animée par Vincent Graton et qui documente l'urgence climatique dans différents pays. Le défi, nous explique-t-il, c'est que ce documentaire a nécessité beaucoup de déplacements en avion, vu qu'on se déplaçait d'un pays à l'autre. Il a donc fallu faire des petits gestes, comme partir en équipe réduite, avec du matériel léger. Une fois sur place, on a privilégié les transports les plus éco-responsables. Il y a aussi la compensation, avec des crédits carbone. Donc, on a mis en place des mesures avec le producteur Philippe Burnett de Dixit. Une période de transition. Si l'objectif du BCTQ est aujourd'hui de déployer le programme « On tourne vers » auprès du plus grand nombre de producteurs et de diffuseurs, sa présidente directrice générale ne croit pas qu'il faut imposer des normes. On est encore dans une période de sensibilisation, de mobilisation, de transition. Il faut qu'il y ait des incitatifs, évalue Christine Maestracci. Les bailleurs de fonds publics, comme la SODEC, Téléfilm Canada ou le Fonds des médias du Canada, ont tous des objectifs d'éco-responsabilité. Donc, ça fait partie des choses que le milieu veut mettre de l'avant de toute façon. Jérôme Helio, lui, estime qu'il y a un travail collectif à faire pour documenter le bilan carbone des productions par genre, documentaire, fiction, etc. Mais à la fin, il faut des incitatifs, peut-être sous forme de crédit d'impôt, mais ça prend une structure industrielle, parce que ça coûte plus cher produire vert, même si on partage le même objectif. C'était Accélérer le virage vert sur les plateaux de tournage. Un texte de Jean Siag, paru le 27 mars 2024 dans La Presse.